Philippe Nanzer.
Pour commencer ce bulletin d'information, nous allons parler football avec Servette qui se déplace cet après-midi sur la pelouse de Young Boys pour son dernier match de l'année. Grégoire Ogier, on vous retrouve au Wangdorf où vous suivez cette partie qui doit toucher à sa fin d'ailleurs. Comment se comportent et comment se sont comportés les Romans ?
Eh bien, il reste 4 minutes dans le temps réglementaire de cette partie et pour l'instant, Servette est menée 2-1. Ça avait pourtant bien commencé pour les Genevois qui ont pu ouvrir le score dès la 6e minute par le meilleur buteur de Super League, Derek Koutessa. Mais ensuite, eh bien, c'est Malèche qui a pu égaliser à la 37e avant que ce même Malèche ne donne l'avantage au Bernois à la 46e minute, juste au retour de la mi-temps. Un corner mal géré par Servette. Servette qui est passé tout proche il y a quelques instants de l'égalisation puisque Guy Menot a touché le poteau des début bernois.
Merci, merci beaucoup Grégoire. Et nous partons au galop pour Genève où les halles de Palexpo vibrent dans le cadre du concours international d'hippisme cet après-midi au rythme du Grand Prix de saut d'obstacle. Grégoire Perroux, vous y êtes? Est-ce que des cavaliers suisses seront présents au barrage?
Eh bien, il faut faire un parcours sans faute pour se qualifier pour ce barrage. Pour l'instant, 8 cavaliers ont réussi un parcours parfait, dont un Suisse, Martin Fuchs, le Zurichois déjà vainqueur dans ce CHI de Genève jeudi soir, vendredi soir lors de la finale du top 10. Et hier soir, il sera encore une fois à la bataille pour la victoire. On attend Steve Gerda qui entre à l'instant dans cette salle de Palexpo. À noter que ce n'est pas passé loin pour Edouard Schmidt et pour Alain Youfer qui ont tous deux fait tomber une barre.
Merci Grégoire, on se réjouit de vous retrouver à 17h. Et on reste à Genève avec une bonne note pour le canton, puisqu'on apprend aujourd'hui que vendredi, l'agence de notation Standard & Poor's a relevé le rating de crédit du canton de Genève, qui passe ainsi de AA à AA+. L'agence de notation a aussi placé en perspective stable, selon un communiqué daté du vendredi 13 décembre. Cette perspective stable s'explique par le fait que, malgré les réductions d'impôts, le canton maintient une politique des dépenses claires et stabilise la charge de sa dette. Au Brésil, le président Lula est sorti de l'hôpital de São Paulo aujourd'hui et peut reprendre ses activités. Luiz Inácio Lula da Silva, qui avait été admis d'urgence, c'était mardi, pour y être opéré d'une hémorragie près du cerveau. Le président brésilien se veut rassurant. « Je suis ici en un seul morceau et je rentre chez moi », a-t-il déclaré, après avoir interrompu la conférence de presse de l'équipe médicale de son hôpital. Au menu météo de cet après-midi, vous le remarquez en regardant par la fenêtre, le temps est ensoleillé en plaine et en vallée. Le ciel est par contre plus gris dans le nord de l'arc jurassien et le long des préalpes. Pour ce qui est des températures, il fait toujours quand même relativement frais et le thermomètre ne devrait pas grimper plus haut que 5 degrés au meilleur de l'après-midi.
L'actualité en continu sur l'application RTS Info.
Bien sûr, votre radio est compatible DAB+, et vous êtes paré pour la fin de la FM le 31 décembre. Auriez-vous toutefois envie de gagner une radio ou un adaptateur auto pour vous ou vos proches? Tentez votre chance sur avecvous.rts.ch. Et n'oubliez pas, tous nos programmes sont aussi à votre disposition gratuitement sur l'application PlayRTS.
Le labo, Camille Dupont-Lahit.
Tu dois faire le bruit dans ta tête. Si tu fais pas le bruit dans ta tête, tu refais pas des films dans ta tête, tu refais pas la lecture dans ta tête.
Bienvenue dans le labo.
Alors je suis dans une espèce de cirque, de théâtre, de dramaturgie.
Labo.
Et vous enregistrez sur quoi? En numérique ou...
Comment trouver le bon mot pour expliquer ce sentiment d'avoir été dans un autre monde?
J'ai entendu des journalistes dire que le reportage était fictif.
Le labo, Camille Dupont-Lahit.
J'avais oublié de respirer.
Les inondations qui ont touché la province de Valence les 28 et 29 octobre ont fait près de 240 morts et disparus. Il s'agit de l'une des pires catastrophes naturelles ayant frappé l'Europe après les inondations de juillet 2021. Les catastrophes se succèdent, mais quand prend-on le temps de les commémorer? Les polémiques, elles aussi, se répètent à chacune de ces occasions. La responsabilité des gouvernements, la gestion de la crise, ou encore les actions à mener face au dérèglement climatique. Shedia Leroy a tendu son micro aux habitants et habitantes de la Vèdre, dont les maisons ont été emportées par les pluies torrentielles de l'été 2021. Leurs témoignages font remonter la déception, mais aussi la solidarité qui a accompagné cette période douloureuse. À travers ces récits, c'est aussi l'histoire industrielle de la vallée qui refait surface et se mêle aux marques de la catastrophe récente. Après le bruit, c'est un documentaire sonore de Shedia Leroy, soutenu par le Fonds Gulliver, diffusé dans le Labo.
Ouais.
Et avec ça, qu'est-ce que vous faites ?
Bah là, en fait, je suis en train de faire un documentaire sur la vallée de la Vèdre.
C'est magnifique. La rue ici, la rue, avant, il y avait 9 cheminées. Maintenant, il y avait 9 cheminées. Et je les ai vues se faire abattre, les cheminées, on les a abattus. Mon papa et ma maman, ils travaillaient comme femmes de vache, mon papa comme dans la métallurgie, les fours à zinc. Et ce qui avait de bien ici, on était tous des étrangers, et c'était bien, parce qu'on s'entendait tous bien, on n'avait pas de nationalité, chez nous c'était la brouque. Les gens passaient d'une maison à l'autre, hein. C'était, tu viens boire un verre, j'aurais jamais voulu quitter le village. Malheureusement, avec ce qui vient d'arriver, ben, la boucle l'a perdue un peu. Hein. Mais ça va revenir.
Après le bruit. Un documentaire de Shedia Leroy.
Tu vois, la remorque avec tous les trucs de chantier.
Voilà.
Chez les voisins à droite, ouais. Et Franca, elle est retournée chez elle. Franca, qui on a passé un petit peu de nourriture entre les fenêtres de nos salles de bain, au-dessus du torrent. Ouais. Elle était avec son beau-fils, ils n'avaient pas pensé... dans la précipitation, à monter des vivres. On n'avait pas des tonnes, mais on leur a passé, je sais pas, une pomme ou l'autre, une boîte de thon, un truc comme ça.
On est dans notre maison à La Brouque.
Et nous sommes à peu près donc à 100 à 200 mètres de la rivière.
Ouais, quand même.
Oui. Si on reprend les événements de l'année dernière, quand la Vèdre est sortie de son lit, l'eau a mis quelques minutes seulement à arriver à ici jusqu'à la maison.
À partir de quel moment, alors, pour vous, ça a commencé ?
Ça a commencé bêtement, on avait été faire des courses. Et on est revenu.
Le matin, du 13, je crois.
De vers 5-6 heures, je ne pourrais plus dire l'heure non plus, mais c'était en fin d'après-midi, oui.
Oui, c'était les vacances scolaires, ben oui, c'était en juillet. Mila était à la maison, Rufi aussi. Et moi, je...
Je suis chez moi.
J'allais travailler.
Il drachait, j'ai un petit peu peur.
C'est vrai qu'on avait eu la flotte dans les jours qui précédaient, qui était épouvantable.
Et je prends la voiture.
On arrive à Oigné.
Chaudfontaine.
Pas moins de passer.
Puis là, je vois tellement d'eau sur la route.
Faites demi-tour.
C'est pas normal, je sais pas, je fais demi-tour.
Bon, j'ai vu des rats fuir, par exemple, ça...
Non, je rentre chez moi, je les laisse pas là. Enfin, ou je les laisse pas tout seul.
Mais c'était pas un rat, c'était une volée de rats qui foutaient le camp. Même les oiseaux, on ne les voyait plus.
Qu'on entend là?
Bah, c'est des chenilles qu'on entend là. Donc, à mon avis, c'est les grottes pelleteuses à chenilles. Donc, ils sont en train d'évacuer ce qu'ils ont retiré du lit à la vase. On entend les oiseaux aussi. Ils ont déserté le bas, en tout cas la broue, qu'il n'y avait plus un oiseau. Après, il a fallu des mois pour que les oiseaux reviennent. Mais même le simple moineau. Sans doute qu'ils sont venus se réfugier ici. Ouais. Voilà. Une belle vue d'ensemble du site, la métallurgie.
C'est là que travaillaient tes parents?
Mon père, oui. Mon père travaillait là. Comme la plupart des gens de la Brooke. Parce que la Brooke était une cité qui a été construite par la métallurgie, la société métallurgique de Préyon, afin d'y loger ses ouvriers. Donc là, le vieux bâti en briques, le dernier bâti en briques qui subsiste, c'est un atelier de peinture industrielle. Ici, le site Gerland, il a cessé. Ça a été repris par l'entreprise Berton qui fait de la fine mécanique pour l'industrie, justement. Puis alors, après, le long de la veste, il reste encore quelques ateliers en vieille brique. Là, c'est tout artisan.
Mais c'était beaucoup plus construit avant.
Oui, c'était beaucoup plus dense que ça. Il n'y avait rien d'ouvert. Tout était couvert, construit, tout, complètement tout. Ouais.
Là-bas, dans la grande salle qui laisse à travers le toit, glisser le jour gris et sale, je suis debout près de toi. Une atmosphère étouffante règne en ce lieu de douleur et son long baiser enfante des mots cruels dont on meurt. Ronfle, ronfle mon métier et ronfle le jour entier. La navette court et glisse en un trajet incessant sur la trame raide et lisse qui me met les doigts en sang. Et je tisse sans relâche, sans espoir d'un meilleur sort, en me disant que ma tâche ne cessera qu'à ma mort. Ouais, c'est... du sinistre, hein?
Il y avait sept énormes cheminées comme celle qui reste là, qui crachait
Nuit et jour, une fumée épaisse et presque noire. Et alors tout ça restait ici, tapissait toute l'atmosphère de la vallée. Et on faisait un paysage tout à fait singulier. Alors, évidemment, les coteaux beaucoup moins végétalisés. Et la Vestre, qui était un véritable cloaque, qui collait au milieu de tout ça. C'était assez particulier et singulier. On tournait le dos à la Vestre. On ne la regardait pas. C'était difficile, parce que... Elle était fort visible étant donné qu'elle pouvait changer de couleur d'un jour à l'autre grâce à l'industrie textile qu'il y avait en amont. Ils nous coloraient la veste de différents tons. Donc on pouvait avoir dans ce paysage assez sombre comme ça, gris, au milieu coulait une rivière qui pouvait être jaune, verte, bleue, rouge, selon ce qu'il avait là-haut.
Verviers a été la première ville industrialisée sur le continent. En 1799, Cochrill est invité par des patrons pour installer à Verviers des mécaniques dans le secteur du textile. Un paysan ouvrier qui travaillait comme il l'entendait, à qui on conduisait la laine, qu'il traitait et puis on venait lui reprendre. S'il veut continuer à trouver du travail, il est obligé de suivre les machines. Et où sont-elles ? Elles sont toutes concentrées dans le fond de la vallée. Le bruit est assourdissant. Les journées de travail vont jusqu'à 12 heures. Pas de syndicat. C'est interdit par la loi. Le père, il voit sa fille quelques métiers plus loin. À 15 mètres de lui, en dessous d'un métier à tisser, c'est son petit gosse de 6 ans qui va pour réparer les bouts de fil. Enfin, ce sont des conditions épouvantables. Mais ça a été du coup aussi à Verviers que le mouvement ouvrier était le plus puissant de tout le pays.
Voilà, c'était ça la limite de la lande. C'était vraiment les côtés fort battus par les vents dominants. Donc forcément, c'est des terres qui ont été les plus contaminées par toutes ces substances, les métaux lourds, le plomb, cadmium, arsenic, mercure et tout ça, quoi. Du coup, il y a très peu de végétaux qui pouvaient pousser dans ces conditions-là. Et donc, ils restent comme ça. Ça peut s'apparenter à des bonsaïs. Ça se régénère tout doucement, en fait. Tu vois, non, ce chêne en CP, ben, il y a quelques années, il était à 1 mètre d'hauteur, quoi. Là, le voilà à 5 mètres de haut. Ouais. Ben, c'est lent, hein. C'est très lent. Hein. C'est sur des décennies que ça se passe. Il a fallu une vingtaine d'années après la cessation des activités de la métallurgie, avant que les choses commencent vraiment à bouger, quoi.
Est-ce que tu vois pas une espèce de lien historique entre l'histoire de cette vallée, de l'industrialisation et les inondations, dans le sens où ça a participé à créer les conditions pour l'intensité des pluies qui sont produits en juillet dernier?
Ah oui, il y a un lien. Il est tenu parce qu'il n'y a plus d'activité, mais Bon, ça commence. C'était une étape du processus qui nous a amené à la situation actuelle. Pas qu'uniquement du niveau au niveau climatique aussi. On a complètement transformé le paysage. Complètement, c'est un paysage artificiel qu'on a sous nos yeux. La Vesdre, ici, coulait par de multiples bras. Tout ça a été asséché, canalisé, pour pouvoir construire le site métallurgique et cette cité. Tu avais aussi la confluence de la Magne et de différents ruisseaux ici.
Et qui sont où maintenant?
Ils sont toujours là. T'as le Bouny qui est là. La Magne, c'est la Waltine, là, le petit vallon qui est là. La Magne, ces dernières années, a gagné en quantité en flux du fait de l'urbanisation croissante du plateau côté de Fléron, Herve, et bien de l'eau qui devait être absorbée par les sols ne l'est plus et directement dirigée dans ce cours d'eau qui gonfle au moindre orage. Quand on arrive vraiment au bas de la vallée, là, elle prend une puissance, elle dévaste tout sur son passage.
Il n'y avait pas encore d'eau dans la Brooke.
Il y avait de l'eau sur la route.
Le village était déjà sous eau.
Et je dis à Mila, écoute, viens voir, c'est dingue, c'est impressionnant. Viens, on va voir à pied la Vesdre.
J'avais le pied trempé, j'avais des chaussures de marche, j'avais pas mis de bottes.
Et en arrivant au pont, on voit la Vesdre gonflée et faisant un boucan dingue. Et l'eau vraiment...
L'eau est à ras du pont.
À la limite de passer au-dessus du pont.
Avec tous les arbres qui sont déjà bloqués contre la pile centrale.
L'eau dépasse le pont.
Oh, t'as vu, regarde, c'est dingue, waouh.
On a vu des silures, tu vois ce que c'est, des gros poissons hongrois, là, qui étaient sur le pont, là,
non. Moi, j'ai dit, non, viens, faut pas s'approcher, enfin, c'était... Trop puissant. Et donc, il y a une espèce d'excitation qui s'installe. Je dis, Roufi, c'est dingue. Il dit, mais non, ça va, tracasse ici, l'eau n'est jamais arrivée jusqu'ici. Et puis, à un moment, je sais plus, je descends dans la cave pour aller chercher un truc et j'entends pshhh.
Et on entend de l'eau qui tapait contre la porte.
Un jet d'eau qui sortait du mur. Je dis, bon, on va commencer à monter les choses de la cave.
Alors, on a commencé à chasser l'eau qui passait sous la porte pour éviter les parquets.
On sort tout ce qu'on peut, et à un moment, j'étais dans la cave avec de l'eau en dessous de la poitrine.
L'eau montait.
Je me fais cogner par le congèle, je me dis, oulala, non, je dois sortir de là. On entend le bruit d'abord, bloup, bloup, bloup. On regarde.
Elle arrivait dans le couloir.
L'eau qui sort du plancher du salon, je ne sais pas décrire ça, c'est... On entend du bruit dans la rue, il y a un camion de la commune avec des super grosses roues, genre un mètre de haut, qui distribue des sacs de sable, donc à ce moment-là, on met les sacs devant la porte, et puis on commence avec de l'eau jusqu'aux chevilles.
On a caractère pour chasser l'eau.
Jusqu'aux genoux, et puis jusqu'au-dessus du genou.
Et puis on ne suivait plus.
Et l'eau passe au-dessus des sacs.
Bon, là, on a ouvert la porte et ouf.
Il y a un fracas, et puis alors, tu vois une espèce de vague, mais assez impressionnante, mais et je lui dis, viens, on rentre.
Et puis, rebelote, à un moment, je me retrouve de nouveau avec de l'eau à la poitrine, et là, c'est le frigo qui flotte.
Les WC qui sont au rez-de-chaussée, l'eau sortait comme des puits de pétrole par les égouts, ça allait quasi au plafond. Je me dis, oh putain.
Je monte, quoi.
Ah, on n'a plus de trottoir, chou.
Ah, on se mettait sur le palier. Et...
Ah, la première marche, chou, on est parti. Ah,
encore deux marches. Plus qu'une marche.
On n'a plus.
Ça s'est arrêté à plus qu'une marche. Hein. On était prêt à un moment, on était prêt à... Heureusement, on a encore un étage. Ce qui n'a pas été le cas de tout le monde.
Hein. En face, on s'était monté à peu près autour de la fenêtre.
Et puis alors, mon téléphone sonne. C'était ma fille à Pépinster. Il me dit, où es-tu? Pépinster avait un ordre d'évacuation. Et elle m'a dit, sonne-moi tous les quarts d'heure. Pour nous, il était coupé.
Nous observions une voisine d'en face qui était coincée à l'extérieur de sa maison. On la voyait s'accrocher à la poignée de la porte d'entrée, avec de l'eau jusqu'à la poitrine, avec un courant déjà très fort. Bon, on essayait d'alerter les voisins, mais on ne s'entendait pas. Donc nos voisins ici, vraiment mitoyens, il y en a un, il a voulu faire, je ne sais pas, le héros, et aller la sauver. Et on lui a hurlé dessus, mais arrête si tu fais ça, c'est sûr qu'il allait être emporté. Et donc finalement, on arrive à faire comprendre par geste aux gens d'en face qu'elle est en péril. Donc on les a vus sortir, encordés, attraper vraiment la dame et la rentrer. Quel soulagement quand on a vu qu'elle était... On la voyait morte, quoi.
Et sur quelques minutes, les voitures ont d'abord commencé à bondir en touchant le sol, et puis elles se sont levées comme des fétus de paille. Elles percutaient les murs, elles s'écrasaient, des tonnes de beurre qui passaient.
Des dizaines qu'on avait passées, des voitures qu'on avait passées.
Des citernes mazout avec une odeur, l'eau a pris une odeur vraiment... pestiféré au ciel, c'était incroyable.
Des troncs d'arbres, des machins qui pétaient contre les maisons.
Des troncs, pas des branches, des troncs.
Des triples vitrages qui explosaient, donc là...
Et les voisins aux fenêtres, les drapeaux blancs, on hurlait d'une fenêtre à l'autre. Ils vont ouvrir le barrage, ils ont ouvert, ils vont encore l'ouvrir.
Et je pense que c'est vers 2h au matin... J'avais pris un repère d'appui de fenêtre, moi, dans mes eaux en face. Je me suis dit, ça descend. Donc, je me suis dit, bon signe. Et puis, tout d'un coup, nous, ça a remonté aussi violemment.
On a eu 2 tsunamis, si je puis dire.
Les vagues, au plus haut, vont monter à 2 mètres, 2,50 mètres de haut.
À la première vague, vous l'avez passé, t'as déjà vu le pont, t'as vu la rambarde. Facilement, 1 mètre au-dessus de la rambarde. Hein.
Regarde les flots.
Il y avait un conteneur rouge dans l'eau. Puis après la première vague, elle a passé hop, au-dessus sur la route.
Tu te dis, c'est le Titanic qui arrive.
Et puis au deuxième la charge, d'un autre côté de l'eau.
Qu'est-ce que c'est que ça? Maintenant, j'ai un peu sourire, mais c'est vrai que ça étonnait, surtout qu'il percutait les façades et ainsi de suite. Donc c'était assez hallucinant.
La puissance du truc, quoi.
Là, je pense que c'est quand l'eau du barrage commençait à arriver.
Comme la chapelle, on a entendu quelque chose. Je me suis dit, c'est une maison qui pète, c'est quoi, mais...
Je mets rideau, pouf, elle s'écroule.
Là, je me suis dit, bon, c'est le barrage qui pète. Je me suis dit, c'est pas possible, c'est le barrage. Hein. Mais quand j'ai vu passer des animaux vivants, j'ai vu des chèvres, des chevaux. C'était pas possible que je plonge, parce que j'y restais, mais... C'est un fracas terrible. Franchement, oui, vraiment un fracas terrible.
Il n'a pas eu peur quand vous montez. Mais c'est le bruit.
Il n'y a pas de son. Ce serait pas mal d'avoir du son, en fait.
Je peux vous faire écouter ?
Oh putain. Merde. Oh, il y a tout qui est arrivé ici. Non.
Doucement.
Salut Jean-Marie.
Ah, toutes ces maisons sont vides, toute la rue en face. C'est vide aussi. Ceci est vide aussi. Les deux en face, ça va, sont vides aussi. Et regarde à court, tu vois. Cette pauvre femme-là, c'est une amie à moi. Et sa cour est en train de s'effondrer. Donc elle va quitter. Elle fait une dépression. La porte à droite, la fissure qui se fait, tu vas en trouver partout si on regarde. Donc c'est, ça doit être fini. Il va encore avoir les glissements de terrain ou que sais-je. L'eau a fait bouger la terre. Allez. Toute la vallée, c'est les paupérisés, hein. Les gens qui sont plus fortunés vivent sur les hauteurs. Donc c'est encore les plus pauvres qui... Toutes les maisons vides, tu n'as plus que des briques, mais elles sont visitées. Il y a des groupes organisés, il y en a ceux qui ont été pipés, qui étaient là pour en quête de trouver de l'outillage, qui est assez onéreux, des histoires assez... Puis tu avais la sinistrose aussi, la police qui venait mettre ses bandes bleues sur qui était encore vivant ou considéré comme tel. Alors il y a des tas de gens qu'on se dit, mais où est-ce qu'ils sont? On n'a pas de nouvelles. Même pour les vieux qui circulent encore un peu ou quoi, c'est trop apocalyptique. Mais des gens comme mon père, comme des tas de vieux ici, n'ont jamais été un jour à la mer. Hein. Les vacances, c'était la fête foraine ici, c'était les promenades avec les chiens, c'était la connaissance de... C'était leur seul univers. Donc cet univers maintenant, et... Le nombre de malades que je connais, mais très graves. Probablement des cancers, du pancréas, ceci, cela, il y a plein de semaines, on n'entend pas quelqu'un de mon âge, ou même beaucoup plus jeune. Et je suis parfaitement convaincu qu'il y a eu un tel choc, je veux dire, il y a toujours une telle angoisse maintenant du devenir.
Pour celui-ci. Voilà. Gros tata.
C'était quoi ici avant?
Ici c'était mon salon avant. Et là j'avais une cuisine équipée.
Et maintenant il y a quoi?
Ben pour le moment il n'y a plus que des débris, mais. Donc maintenant ben, on doit refaire complètement l'électricité et puis rénover complètement. Donc il faut encore mettre une cuisine, il faut qu'on replafonne. C'est assez désolant hein, comme spectacle, parce que.
Ça faisait combien de temps que tu étais dans cette maison?
J'ai acheté là, j'ai 25 ans et je vais en avoir 63. Ça aussi, c'est un ami peintre qui me l'avait fait. Il y a plein de trucs comme ça qu'il faut encore que je regarde un peu. Mais... Mais je n'y reviens pas souvent. Hein. Il y a trop de, comment vais-je dire, trop de mémoire dans les murs. Et ça, tu sais ce que c'est? la stupa. Et ce sont une partie des sœurs de mon épouse qui sont dedans. Moi, ça, je vais le redéposer au toit. Parce que...
Tu penses que ça va prendre combien de temps à reconstruire?
Ah, je ne sais pas. C'est une reconstruction qui n'est pas évidente. Je ne veux plus y revenir, de toute façon.
Un micro.
Un micro poilu.
Oui. Comment elle s'appelle encore cette rue?
Grand Ventail.
Grand Ventail. Vous avez toujours habité ici, vous?
Ouais. Tu n'es là.
Ouais. D'accord. Ok. Ouais. Et vous, votre maison, on ne le risque pas? J'ai entendu qu'il y avait des glissements de terrain. Votre maison, elle n'est pas concernée?
Ben, c'est pas un glissement de terrain, c'est la façade.
C'est
on rentre sûr. Carrément dans la façade. Alors, il faut la ressabler toute, il faut la rejointoyer, il faut faire tout, quoi. Tout l'intérieur, il a été démoli aussi. C'est pour ça qu'il faut avoir des subsides pour le faire.
Hein. Mais c'est quoi? C'est un problème d'assurance ou c'est un problème
d'ingénieur? Il n'y a pas d'assurance. Mon courtier d'assurance m'a dit, je n'assure pas une affaire ainsi, ça ne vaut pas la peine. Alors, il n'a pas été assuré. Il m'a dit, le jour où tu as un petit problème, on essaiera de s'arranger. Alors quand il s'est amené avec les inondations, il m'a dit « Ah ben oui, mais celle-là, elle n'est pas assurée. »
Et ouais, vous venez au barbecue plus tard ou pas?
Barbecue. Pour les gens qui ont eu des inondations?
Ouais, c'est ça, en mémoire.
Oh, ouais, ouais. On est au courant de rien ici. Hein. Ici, on voit rien ici.
Ah,
vous aviez les gens qui apportaient des fours, des machins, des bazars. Ils s'arrêtaient là où vous ne venez jamais ici. On a été carrément isolés ici, quand ils manquaient par leur bazar, là. On n'avait plus tout ça de route, hein. Tout ça, c'était parti, hein. Elle était coupée au tarmac.
Alors, hein. C'est pas la veille, 11h30.
Dans les premiers jours, il y avait des dizaines de personnes qui sont venues. Principalement des gens qu'on connaissait, hein, des amis, qui venaient d'un peu partout, en Belgique, même de Hollande. Et des images... surprenante, saugrenue, deux dames qui amènent une friteuse sur une brouette parmi les gravats et qui bricolent une table avec des objets jetés et qui font des frites au milieu des gravats. Et ces deux-là, oui, deux flamands, la dame, ils sont venus nous aider. Donc les deux flamands et le jeune gars, ils ont nettoyé les haies. C'était dégueulasse, il y avait plein de crasses, de poussière, c'était un boulot super dégueulasse, il fallait arracher à la main des fibres. Ils ont fait ça pendant des heures. Et la dame, en partant, elle m'a offert un sachet de lavande. quelque chose qui sent bon, elle m'a dit. Voilà pour vous quelque chose qui sent bon.
Voilà.
Ah ouais.
Ah, avec l'armoire. Avec l'armoire, ben oui, vous avez vu l'armoire.
La vague humaine, véritablement, la vague de secours, c'était flamand. Parce que si on n'avait pas eu les flamands, on n'avait rien. Même pour nettoyer les berges. Non. T'as pas eu des métallos, t'as pas eu des cheminots. Ils n'ont même pas mobilisé leurs gens pour aller dire, allez, il faut y donner un coup de main. Et ça, ça me reste dans la gorge. Pourtant, j'ai été délégué syndical toute ma vie. Des mineurs pensionnés du labour. Je dis chapeau, des pensionnés, mineurs. C'est des gens qui venaient même avec des produits de leur jardin. Mais on n'avait pas de quoi se chauffer parce qu'on n'avait pas encore eu la distribution des plaques chauffantes. Donc pour cuisiner, on était toujours dans une menace. Ça m'a... Oui, ça m'a touché. Franchement, ça m'a beaucoup touché.
Pas de paix à venir, hein.
C'est ça, il y a une grande solidarité heureusement que les gens sont là. Et je sais pas ce qu'il en reste maintenant exactement. Il y a des liens qui se sont créés. Maintenant, tout le monde retourne un peu à sa vie. Mais des liens se sont créés, oui. Certaines personnes ont changé de point de vue sur... peut-être sur le réchauffement climatique. Et d'autres, non.
Qu'est-ce que tu fais là, Lise? Je ramasse les fragments de renouée dispersés après les inondations de 2021 pour éviter qu'ils ne repartent à la première pluie. Je fouille la terre. Pourquoi vous arrachez la renouée? Si on les laisse, ça fait place à un massif par après, un massif impénétrable, dense, où les plantes indigènes de chez nous ne peuvent pas pousser en dessous. Et à l'intérieur des massifs, on retrouve aucun animal non plus, insectes. C'est vraiment très très pauvre. Mais il y a une belle histoire. Donc anciennement, il y avait les industries lainières et les inondations, ça a remué toute la terre, ça les a déposées un peu partout sur les berges et sur le lit majeur. Et donc on a retrouvé plein d'espèces exotiques d'Amérique du Sud, d'Afrique du Sud et d'Australie. Et c'est des espèces qui étaient présentes dans la laine des moutons et qui sont restées dans le sol toutes ces années, en dormance, et qui ont donc été remis à la surface et qui ont repoussé l'été dernier. On en a retrouvé plus d'une centaine, je crois.
Alejandro, a dar un paseo. ¿No llevas paraguas? ¿No llevas paraguas?
On va aller jusqu'au poulailler parce que je dois enfermer les poules que j'ai lâchées ce matin.
Et les moutons, ils sont où aujourd'hui?
Les moutons, ils sont à l'ombre. Ils sont à l'ombre, j'étais là, je les ai lâchés ce matin. On a été brouté un peu le long, tout autour du potager. Alors, on a deux pommiers, deux cerisiers, un pêcher qui est super chargé cette année. La plupart des gens qui habitaient ici étaient ouvriers, mais étaient d'origine paysanne. Le moindre carré de terre était cultivé, en fait. Il avait 4 carrés, 5 carrés, quand même, mon père. Une journée comme aujourd'hui, par exemple, ils étaient tous là. Mais ils ne faisaient pas que travailler la terre, hein, ils étaient là aussi. C'était leur moment plaisir, quoi. Alors, se croiser et se mélanger des cultures différentes, mais dans les deux sens du terme. Qui venait avec des semences d'Espagne, d'autres d'Italie, d'autres du Maroc, d'autres de Yougoslavie, d'autres de Pologne. Par exemple, on n'achetait plus de haricots, nous. Mon père les produisait. La fabrale, la fameuse fève des Asturies, la blanche, là. Avec lequel on fait le fameux cassoulet asturien. Boum. C'est bélier, ça. La génération qui ont vraiment travaillé là, la métallurgie, ils sont tous passionnés, décédés ou rentrés au pays. Ici, dans la cité, il n'y a plus d'anciens ouvriers. Dans la cité, il y a une partie de la descendance de ces personnes, qui, elles, alors, pour la plupart, est restée quand même dans le milieu ouvrier. Même s'il paraît que la classe ouvrière n'existe plus, mais...
Toi, tu considères que tu es un ouvrier?
Oui, moi, je fais partie de la classe ouvrière, bien sûr, absolument. Je me sens même un peu orphelin. Mais... Il n'y a plus beaucoup qui passent, quand même, comme moi.
C'en est où là aujourd'hui de l'occupation et de la reconstruction des maisons dans le village?
Je dirais plus de 50% maintenant des maisons sont habitées. Donc c'est un village qui recommence à vivre, mais il y a encore pas mal de maisons en travaux. Il y a encore des maisons où rien n'a été fait. Et je sais pas ce qui va se passer avec ces maisons. Et j'avoue que je commence à avoir envie de quitter la vallée. Une fois, mais pas deux. Maintenant, ça c'est juste pour moi. Et je me rends bien compte que c'est pas possible que tous les habitants de la vallée quittent la vallée. Enfin, où irait-il? Peut-être que ça n'arrivera plus, hein, mais bon.
Des inondations, on en aura.
Mais oui.
On va pas se voiler la face, tout va dans ce sens-là. Maintenant, l'ampleur de la même ampleur que ce qu'on a vécu l'année dernière, c'est peu probable. Je ne veux pas dire que ce ne sera pas possible.
On peut s'y attendre dans les 20 prochaines années. Je pense qu'une fois qu'on... L'ayant vécu une fois, c'est encore plus concret.
C'est même prégnant.
Oui.
C'est-à-dire, c'est une pensée qui ne nous lâche pas. Voilà.
Heureusement, on s'est bien nagés tous. on a des batteries externes de réserve.
Un groupe électrogène.
Un groupe électrogène.
On a un point de repli sur les coteaux.
Oui, et on sait que la prochaine fois, on se barre directement. On ne se dit pas, ça va s'arrêter là où ça va aller. On se barre.
Oui.
Et donc, au moins, l'idée, c'est on va même se barrer avant.
Oui. Bah oui. Moi, je ne suis pas aussi déterminé. Hein.
Non?
Non.
Pourquoi?
Parce que... cette maison, elle représente beaucoup de choses, quoi. C'est pas que du matériel, quoi. C'est tout ce qu'on a mis dedans comme énergie, comme projet, comme... Donc, quitter cette maison... comme je viens de le dire, je suppose qu'on aura d'autres inondations, mais on peut réduire les dégâts, quoi. Ici, évidemment, l'année dernière, c'était impossible. C'était pas une inondation, c'était pratiquement un tsunami qui nous est tombé dessus, mais...
Oui, on peut s'en sortir avec moins de dégâts s'il y a moins d'eau.
Oui, voilà, il y a moins d'eau, effectivement.
Oui. Mais s'il y a autant d'eau, enfin, on n'en sait rien, ça.
On n'en sait rien, effectivement, on n'en sait rien, donc...
Et alors, on fera quoi?
Non, c'est pas... Réfléchir et même mettre en place un plan B, oui, tout à fait, je suis tout à fait d'accord. Mais quitter cette maison comme ça, ouais, il faut que l'idée fasse son chemin, quoi.
Après le bruit. Prise de son et réalisation, Chédia Leroy. Accompagnement à la réalisation, Paola Steven. Prise de son additionnelle, Cyril Mossé. Mise en onde et mixage, Roxane Brunec. Avec les récits de Madeleine et Rufino de la Brooke.
Il va ? Je vais chercher le chien parce qu'il est déjà dans les cuisines.
José de Nessonvo.
Bonjour, ça. Bien, ça va, salut Pascal.
Gérarda et Alain de Frépon.
Quelqu'un qui veut un petit coup ?
Carlo, Freddy, Lise, Florent.
Bonjour, Yann.
Comment vas-tu ? Toi,
tu habites où maintenant ?
Là, chez mon père pour l'instant.
Oui,
ouais.
Allez.
Ça sent bon, hein, oui, hein. Tout pêche. Mon mari, c'est un pêcheur. Oui, et le poisson.
Et les pêcheurs à Ostende sur le bateau.
Oui, mais maintenant, ils travaillent dans la maison. Oui, à Chenier. Oui.
Merci à Marc Monaco pour m'avoir fait connaître la vallée et son histoire. Merci également à La Griffe, Les Îles, Mathias Forster, Clara Alloin, Sarah Fautré, Guillaume Kozlowski, Antonin Simon et l'équipe de Grafouille.
Ik ben Taong Nathalie, ik kom uit Oostende. En ik ben hier opgekomen gewoon door te zien op tv. Mijn hart is te groot, denk ik. Om niet te delen. En ik moest helpen. Pour quelle raison, en fait, qu'elle est venue ici? Bon, elle vient d'Oostende. Comme elle dit, elle a un trop grand cœur. Et comme elle avait vu sur la télé ce qui s'était passé, bon, elle... Elle dit, bon, écoute, on doit l'aider.
Oméga 3, hein, c'est ça. Hein,
Oméga 3, oui.
C'est bon pour le cholestérol.
Le cholestérol, c'est vrai. Hein.
Une production Parchemins et Ruines.
Elle est 18 fois maintenant.
Oui. Coproduit par l'atelier Grafouille.
J'ai
a encore une boîte avec salade. Les deux pièces avec. Tout le monde. Ouais.
Soutenu par Gulliver et le Fonds d'aide à la création radiophonique de la Fédération Wallonie-Bruxelles.
Mais c'est chaud, hein. Attention,
on va faire attention. Hein, ouais.
Voilà, bon appétit. À
merci
tous.
Beaucoup. Merci beaucoup pour vous.
Et bonne continuation.
Merci,
hein.
merci beaucoup.
On se fera peut-être encore.
Oh, ben, l'année prochaine.
L'année prochaine.
Allez, au revoir. Salut.
Au revoir.
Merci.
Au revoir.
The sun dancing with the leaves, freckles on your face, and I can't look away, 'cause when your eyes are closed, I say, you're my sunflower in a garden full of roses. The sun dancing on the sea, a sparkle in your eyes, you're so patient with me, 'cause when I start to cry, you smile. You're my yellow home in a town of grey houses. Breathe, oh breathe, realize that you're alive. Oh, right, how special does it feel to have a heart that heals and you memory. Is it to see yourself grow? How amazing! How wonderful a Monday can be when it's just you, some flowers, and me.
Le documentaire diffusé ce soir dans Le Labo a été réalisé par Chédia Leroy et il est à retrouver en podcast sur Player TS. L'émission se termine, on vous souhaite une excellente soirée à l'écoute d'Espace 2.